serait question du bienheureux Pierre Favre. C'est pas n'importe qui, Pierre Favre. C'est le premier compagnon de Saint-Ignace de Loyola. Le premier à vraiment avoir décidé de le suivre. Bien jeune, pourtant. Et il est mort en 1546, et c'est l'anniversaire, le 23 décembre. C'est un type d'une très grande envergure. Et pourtant, il venait d'un milieu le plus simple possible. Il est né en 1506, puis il est mort en 1546. Ça lui donne 40 ans. Une vie courte, une vie pleine. Pierre Favre, donc, est né en 1506, près de Saint-Jean de Sixte. C'est un petit village assez fermé dans les montagnes, dans le diocèse d'Annecy, qui était alors diocèse de Genève. C'est assez surprenant. C'est donc dans le sud de la France, en Savoie. Il dépendait donc de Genève. À Genève vont se passer, quelques années plus tard, des troubles terribles pour ce qui est de l'Église catholique, car Calvin va entraîner à sa suite, en dehors de l'Église, des chrétiens qui veulent être réformés, être plus près, croit-il, en grande sincérité, je crois, être plus près de l'Évangile. Mais lui, c'est au sein de l'ordre des Jésuites qu'il va chercher à rétablir les choses. Je signale que le nom de famille Favre, ça peut intéresser beaucoup de gens ici. Il figure dans les documents latins de l'époque sous la forme originelle de Faber. Il y a un fameux père Faber, Faber, qui a fait sensation au siècle dernier en Angleterre. Je compte vous en parler encore. Et on a parfois traduit son nom en Fèvre et puis Lefèvre, qui est un nom très répandu chez nous, comme on sait. Alors, c'est la même famille. Et puis, c'est dans le nord de la France qu'on retrouve les Lefèvres qui sont venus ici, et c'est la même famille. Mais Favre, c'est bien la forme du franco-provençal parlé en Savoie. Sa langue, lui, c'était plutôt le savoyard. Mais il a écrit, il a laissé une lettre en français, dans un français qui est très beau. Je vous la lirai tout à l'heure en partie. C'est un ancien français qui est magnifique. Et Pierre Favre a grandi dans sa haute vallée natale, avec des horizons très fermés au fond, mais c'est très beau quand même. C'est au sein d'une famille paysanne, donc très chrétienne. Puis il est saisi par, très jeune, par un ardent désir de s'instruire. Oui, vraiment. Et il va devenir exceptionnel, vous allez voir. Il étudie dans une petite école des environs où il y a là un maître intelligent, heureusement, qui l'aide à approfondir sa foi puis qui lui donne le goût des lettres, le goût de l'étude des langues et puis de la littérature. Et en 1525, donc, il y a même pas 20 ans, il se trouve plongé dans le milieu tout différent de l'Université de Paris, où il l'a conduit sa soif d'apprendre. Puis c'est là qu'il croise des hommes qui sont venus de tous les coins de France, puis même des pays voisins, il y en a qui viennent d'Espagne. Et il y a toutes sortes de courants d'idées les plus divers, il y a un brassage d'idées. C'est l'époque de mutation puis de tension, hein, dont je vous ai parlé, 1525, c'est le début Luther, et le début des séparations, des divisions. Alors, il entre au fameux collège Sainte-Barbe, qui était très connu en France à cette époque-là, à Paris. Il y partage la chambre d'un jeune garçon de Navarre, parti de l'Espagne aujourd'hui. Il est âgé comme lui de 19 ans, et d'ailleurs, ils n'ont que 4 jours de différence. Ils sont nés à 4 jours de différence. Et son nom, c'est François-Xavier ou François de Xavier. J'en profite pour saluer un jeune François-Xavier qui m'écoute et qui rêve de devenir jésuite. Il est tout jeune, il a 11 ans. Il est très décidé. Très décidé de jésuite plus tard. Alors, Pierre Favre se lie d'amitié avec ce François-Xavier extraordinaire, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, le 3 décembre. C'est une amitié solide et durable. Mais il est incertain de son avenir, puis il est en proie à des inquiétudes de conscience. Et il va rencontrer Saint-Ignace de Loyola, qui est son voisin d'en haut. C'est l'homme qui le pacifiera et qui l'aidera à trouver sa voie. Et là, ils vont partager la même chambre tous les trois. C'est en 1529 qu'Inigo de Loyola, plus âgé d'une quinzaine d'années, là, qui vient partager la chambre des deux amis. Puis Fabre, qui est déjà assez instruit malgré son jeune âge, lui donne des répétitions. Et dans, il a laissé un texte admirable qui s'appelle Le Mémorial. Et on peut lire ces lignes que je vous lis de ce bienheureux Pierre Favre. Il parle de cette rencontre avec Ignace. C'est magnifique. Que soit à jamais bénie cette rencontre, ménagée par la divine providence pour mon bien et mon salut. Car après qu'elle eut elle-même disposé que j'instruirais ce saint homme, il s'ensuivit pour moi des relations d'abord superficielles, puis intimes avec lui, et ensuite une vie en commun où nous avions à deux même chambre, même table et même bourse. Il finit par être mon maître en matière spirituelle. Il me donnait règles et méthodes pour m'élever à la connaissance de la volonté divine. Nous en vîmes à ne faire plus qu'un, de désir et de volonté, dans la ferme résolution de choisir la vie que nous menons aujourd'hui, nous tous, membres présents et futurs de cette compagnie de Jésus, dont je ne suis pas digne. Et en 1534, ça vous rappelle, c'est une date mémorable pour nous, c'est la découverte du Canada, par Jacques Cartier, 1534. Alors, c'est en 1534 seulement que Fabre fait les exercices spirituels sous la direction d'Ignace de Loyola. Et les sept compagnons font, écoutez bien ça, à Montmartre, leur premier vœu. Fabre, le seul qui est alors ordonné prêtre, célèbre la messe. Où est-ce qu'ils sont allés? Vous savez que vous pouvez y aller. C'est à la crypte du martyrium de Saint-Denis et du souvenir de Saint-Ignace de Loyola, ça s'appelle comme ça. C'est à Paris, à Montmartre. C'est au 11, je le donne l'adresse, 11 rue Yvonne Le Tac, à Montmartre toujours. C'est au métro Abbesse. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand vous arrivez là, vous vous trouvez dans un lieu chargé d'histoire et de spiritualité. Il faut descendre un grand escalier, et c'est très creux. Et là, on trouve une chapelle merveilleuse. Et on peut se dire qu'ici, la tradition situe le martyr de Saint-Denis, vous savez, Saint-Denis qui s'est fait trancher la tête, l'archevêque de Paris, puis qui tenait sa tête en marchant, dit la légende. C'est là, dans cet endroit creux du Montmartre, que Saint-Ignace a posé le geste fondateur de ce qui deviendrait la Compagnie de Jésus. C'est Simon Rodriguez de Acevedo, un Portugais du nord du Portugal, qui a été le quatrième compagnon de Saint-Ignace. Il écrit, eux, à genoux sur le sol. L'Esprit en Dieu ont prononcé de leur place un à un leurs vœux d'une voix claire que tous entendent. Vous savez que cet endroit est un lieu de pèlerinage où il n'y a personne. J'y suis allé au mois de juin avec Luc Faneuf et nous sommes restés là en oraison assez longtemps, méditant sur cet endroit sacré d'où sont partis tous ces hommes à travers le monde, les jésuites, et qui sont venus ici dès le début de notre pays et qui semblent, moi je trouve ça épouvantable, qui semblent être en train comme de disparaître de chez nous. Mais cet endroit-là est un lieu de pèlerinage pour les plus humbles comme pour les plus grands. Vous savez qu'ils sont venus là, Saint-Bernard, pour vénérer Saint-Denis, le pape Alexandre III, même Saint-Thomas Becket et son futur bourreau, là, Henri II d'Angleterre. Saint-Thomas d'Aquin y est allé. Charles VI, après son premier accès de folie, puis après le bal des Ardents, fameux. Faudrait que je vous raconte tout ça. Puis Jeanne d'Arc. Oui, Sainte-Jeanne d'Arc est allée. Puis le roi Henri IV, en action de grâce, après avoir abjuré le protestantisme et être devenu catholique. Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François-de-Sales, Bérulle, dont je vous ai parlé aussi, puis Louis XIII, qui avait une dévotion particulière pour le martyrium, cet endroit. Puis Louis XIV, enfant, y est allé aussi. Alors, le souvenir le plus vivant, c'est celui d'Ignace de Loyola, hein, qui aimait à s'y recueillir. C'est là, comme je vous ai dit, que le 15 août 1534, il se rend dans la crypte avec six compagnons, dont François-Xavier, Pierre Favre, tous étudiants à l'université, pour y consacrer leur vie à la gloire de Dieu et au salut des hommes. C'est là qu'ils ont scellé par un vœu la vocation admirable qui va les mener de Paris aux confins de l'univers. Pardon. Le martyrium est devenu comme ça le lieu de naissance spirituelle de ce qui va devenir en 1540 par la bulle papale Regimini Militantes Ecclesiae, la Compagnie de Jésus. En 1537, tous ces nouveaux jésuites se retrouvent en Italie. Ils se présentent au pape Paul III, très grand pape qui a commencé le Concile de Trente, une sorte de Jean XXIII de l'époque. Et alors commence pour Pierre Favre, le bienheureux Pierre Favre, des années d'un labeur apostolique absolument intense, des années itinérantes, si l'on peut dire, dans une chrétienté qui a des besoins immenses comme aujourd'hui. Alors il est envoyé tour à tour dans l'Italie, du centre, puis du nord. Puis du nord, il passe à l'Allemagne en 1539. Puis se rend dans les provinces situées aux frontières du catholicisme et de la réforme protestante en expansion. Alors il va à Worms, à Spire, à Ratisbonne. En 1541, il est en Espagne. Puis de nouveau en Allemagne, il est à Mayence, à Cologne en 1542. Puis fait une incursion à Louvain, puis où il y a cette belle université catholique maintenant, en Flandre, et aussi en Wallonie, c'est une université qui est à la fois et flamande et française, grande université catholique. Et enfin, en 1544, il est rendu au Portugal, puis en Espagne. Et là, il a 38 ans. Il ne lui reste plus que 2 ans à vivre. Mais il excelle dans les lectures commentées de l'Écriture, les instructions spirituelles, puis le ministère de la Confession, comme Don Vidal à Saint-Benoît-du-Lac. Et de la direction aussi. Puis les conversations privées. Il y a un témoignage sur lui, justement de Simon Rodriguez, dont je viens de vous parler, ce quatrième compagnon, ce portugais, un des premiers compagnons, là. Il dit de Pierre Favre, écoutez bien, il avait une douceur gaie et une cordialité que je n'ai jamais rencontrée en personne. Il entrait, je ne sais comment, dans l'amitié des autres. Il agissait peu à peu sur leur cœur, si bien que par sa façon d'agir, et le charme de sa parole, il les entraînait à aimer Dieu. Alors, si le bienheureux Pierre Favre entraîne tout le monde à aimer Dieu, il le fait surtout en particulier en donnant les exercices spirituels de Saint Ignace, qui se donnent ici, à Saint Jérôme, mais ça se donne aussi, évidemment, à Loyola, en Espagne, et à Manresa, aussi en Espagne, un peu partout dans le monde, où là où il y a des jésuites habituellement, on donne les exercices spirituels qui peuvent durer jusqu'à un mois. Alors lui, il les donne en particulier durant un mois. Et c'est lui qui le faisait le mieux au jugement de Saint Ignace de Loyola lui-même. Il y fait faire un grand nombre d'hommes, souvent très influents, des membres du clergé, des religieux, des laïcs. Et c'est parmi eux, il y a Pierre Canisius, dont c'était la fête il y a 2 jours, qui écrit dans une de ses lettres, « J'ai trouvé pour mon grand bonheur l'homme que je cherchais. Jamais je n'ai vu et entendu un théologien plus savant que Pierre Favre, et plus profond, ni un homme d'une vertu aussi rayonnante et aussi haute. Il jouit d'une telle autorité que beaucoup de religieux, beaucoup d'évêques, beaucoup de docteurs l'ont pris comme directeur de conscience. Pour ma part, il m'est difficile de dire combien les exercices spirituels ont changé mon âme. » Mais il y a aussi Gérard Kalkbrenner, ce fameux prieur de la Chartreuse de Cologne, en Allemagne, dont Pierre Favre devient l'ami intime. Et ce prieur de la Chartreuse écrit: Pierre Favre donne aux hommes de bonne volonté qui s'offrent à lui certains exercices spirituels remarquables par lesquels, en peu de jours, ils obtiennent une vraie connaissance d'eux-mêmes et de leurs péchés, la faveur des larmes, une vraie et généreuse conversion à Dieu, détachée de tout le créé, le progrès dans les vertus, puis une intime familiarité avec Dieu, son amour et son amitié. Alors en 1546, Pierre Favre est appuyé par Saint Ignace pour se rendre comme théologien au Concile de Trente. Avec Diego l'aîné et Alphonse Salmeron, deux autres de ses premiers compagnons, les premiers jésuites. Et malgré une santé précaire, il obéit, puis il meurt à son passage à Rome, tout simplement comme ça le 1er août, à 40 ans. Pierre Favre a laissé un souvenir absolument vivant dans son pays natal, de la Savoie, où il a refait un court séjour en 1541 avant de mourir. Une première enquête sur ses vertus a été faite en 1596, donc, disons, une cinquantaine d'années après sa mort, avec l'approbation de Saint François de Sales. C'était suivi, une trentaine d'années plus tard, en 1626, d'une enquête canonique officielle et le culte immémorial qui lui est rendu comme bienheureux est reconnu et approuvé au cours d'un procès en forme qui a été ouvert à Annecy en 1869, c'est assez récent, comme vous voyez, ça a pris du temps, et sanctionné par la Congrégation des Rites en 1872. C'est curieux qu'un homme aussi puissant, aussi grand, aussi merveilleux, s'ait pris tant de temps. Le bienheureux Pierre Favre, jésuite donc, a peu écrit, mais c'est beau ce qu'il a écrit. Il le faisait en général à la hâte, soit en latin, soit en espagnol, la langue usuelle des premiers jésuites. Le texte le plus important qui reste de lui n'était pas destiné à être lu par d'autres yeux que les siens. Il voulait ça pour lui-même. En juin 1542, 4 ans avant sa mort, il se met à noter, après un bref récit de sa vie intérieure, puis de sa vie antérieure, les grâces reçues au jour le jour. Il écrit « pour me souvenir en vue de mieux prier et mieux agir ». Alors ça devient comme un certain journal, presque. Et recueilli après sa mort, ces feuillets ont été recopiés avec le titre « Mémorial ». Souvenez-vous de ce titre, le « Mémorial de Pierre Favre ». C'est admirable. « Mémorial de certains bons désirs et bonnes pensées du Père Maître Pierre Favre », car il a été le premier Père Maître. L'intérêt de ce texte, c'est de faire connaître une âme. Une âme, oui, de grande fraîcheur. Lucide, lucide, lucide sur elle-même, extraordinaire, c'est troublant même, tellement il est lucide. On se rend compte, en le lisant, qu'on n'est pas lucide soi-même. Il était animé d'un constant et ardent désir d'imiter Jésus-Christ dans sa vie apostolique. Il était soucieux d'unir prière et action. La sensibilité du bienheureux Pierre Favre à ces motions de l'Esprit-Saint apparaît dès les premières pages de son mémorial. Oh, tiens, je vous en lis un passage. Vers l'âge de 7 ans, écoutez ça, c'est beau, beau, beau. Vers l'âge de 7 ans, je me suis senti parfois spécialement poussé aux élans de la dévotion. Dès ce temps, le Seigneur lui-même est l'époux de mon âme, voulait donc prendre possession de mon âme. Oh, que ne l'ai-je compris? Un peu plus loin, il dit, vers l'âge de 12 ans, j'ai ressenti certaines impulsions de l'esprit à m'offrir au service de Dieu. Un jour, je suis venu tout joyeux dans un champ où je remplissais parfois le fils de berger. Et avec un grand désir de la pureté, je promis à Dieu notre Seigneur de garder la chasteté pour toujours. Oh, miséricorde de Dieu, qui marchait avec moi et voulait dès lors me saisir. Pourquoi ne t'ai-je pas bien reconnu, ô Esprit-Saint? Pourquoi, dès ce temps, n'ai-je pas su me séparer de tout pour te chercher et me mettre à ton école? Alors, bientôt, en effet, Pierre Favre sent en lui des motions tout opposées. À Paris, d'étudiant, il souffre de tentations diverses et de scrupules. Et c'est alors que Saint-Ignace lui apprend à, comme il écrit, voir clair dans sa conscience, c'est-à-dire à discerner les mouvements bien différents du bon esprit et du mauvais esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toute sa vie, Favre va sentir ses émotions opposées. Et un des intérêts du mémorial est de montrer les efforts et les progrès d'un homme qui, lucide sur lui-même, chemine avec persévérance entre les ombres qui nous mènent à nous retourner sur nous-mêmes et à gratter nos bobos, quoi, et la lumière, les lumières qui viennent de Dieu. D'abord, il parle des ombres, les jours de sécheresse, la distraction, comme il dit, les distractions de l'âme, attiré par les choses vaines, les platitudes, les conversations inutiles. Autant de Noël, au lieu de fêter l'incarnation de Dieu, on se réunit en papotage. Très souvent. Pour éviter ça autant que possible. Mais si parfois il faut y aller quand même, essayer d'être des témoins. Donc la distraction de l'âme attirée par les choses vaines. Et souvent des découragements. Je le cite, voici son texte. Le jour de Saint-Marc, ça c'est le 25 avril, si je me souviens bien, Saint-Marc. Le jour de Saint-Marc, avant de célébrer la messe, je sentis un esprit qui m'attirait vers le bas. La chair, quoi. Alors la tristesse s'est insinuée dans mon cœur à cause d'un tel mouvement. Et j'ai été peiné jusqu'aux larmes de constater qu'il y avait encore dans ma chair, par de telles agitations, de quoi donner prise à cet esprit dont le propre est de ramener notre esprit en arrière et notre chair en bas. Et voici ce qu'il dit des lumières et des joies. Le père Favre éprouve avec reconnaissance l'action de l'Esprit Saint, fréquente, qui éclaire, qui pacifie et qui ouvre l'avenir. Alors, il écrit ce beau texte, écoutez bien ça. Vous savez, c'est une émission spéciale un peu pour nous préparer à Noël. Hein? Il vaut mieux aller de l'avant avec la volonté de faire quelque chose de bien plutôt que fatiguer et épuiser la volonté sous le poids du passé. Il faut cesser de se remémorer tous nos abominables péchés, nos mauvaises conduites d'autrefois. Il faut aller de l'avant avec la volonté de faire quelque chose de bien, c'est ce qu'il dit, hein? Et là, Dieu s'empare de nous, là. Il voit qu'on veut quitter le poids. Alors, il ajoute, « J'ai senti clairement combien nous avons besoin de cet Esprit, l'Esprit Saint, dont la présence enveloppe tous les êtres, prépare nos âmes de l'intérieur et les équilibre par la diffusion de ses dons. » Il ajoute aussi beau, ça, « Sans les touches de Dieu, tout le reste ne paraîtrait que mots impuissants à pénétrer le fond de notre âme. » Il ajoute, au saint jour de la Pentecôte, de vifs désirs me portèrent vers Dieu pour qu'il me donne par l'Esprit de comprendre et de vouloir spirituellement ce qui est spirituel. Vouloir spirituellement ce qui est spirituel. Je considérais combien il est différent de sentir dans la chair et de sentir dans l'Esprit. D'exister dans la chair et d'exister dans l'esprit, de vivre dans la chair et de vivre dans l'esprit. Il m'a été donné, alors, de solliciter avec beaucoup de prières la grâce de l'Esprit Saint pour qu'en moi l'être, la vie et le sentir soient, à l'avenir, transportés en cet esprit pour que le salut de mon âme s'opère en ces profondeurs ouvertes à l'Esprit Saint. Avez-vous déjà entendu d'aussi belles choses? C'est rare, hein? Et, comme pour Saint-Ignace de Loyola, bien, sentir spirituellement, hein? Mais c'est pour le bienheureux Pierre Favre, une expérience profonde, où entre la connaissance et l'affectivité, c'est, dit-il, une connaissance directe des choses divines, accompagnée d'un sentiment affectueux. Et aujourd'hui, bien, les questions de Pierre Favre, le bienheureux Pierre Favre, le premier ami, le premier compagnon, plutôt de Saint-Ignace de Loyola quand il a fondé les Jésuites. la compagnie de Jésus. C'est une émission spéciale, en somme, car je m'attache en grande partie à ce qui faisait vivre Pierre Fabre, qui est mort quand même tout jeune à 40 ans. Pour moi, c'est tout jeune, 40 ans. 40 ans, mon Dieu, c'est jeune. Jeune. Alors, Pierre Fabre, on a pu voir une vie intérieure profonde. Il y revient fréquemment à cette intériorité. Et c'est ce qui nous manque le plus dans nos paroisses, dans nos prières, dans nos façons de prier, dans nos vies. Il est donc difficile d'avoir une vie intérieure vibrante, vivante, solide. Nous sommes toujours amenés par le bas, comme il disait tout à l'heure, lui. Que c'est difficile, mais il faut s'entraîner les uns les autres. Et je supplie ceux qui président nos eucharisties d'avoir une vie intérieure profonde à l'autel. Je sais qu'ils l'ont déjà, mais qu'ils ne se gênent pas pour nous la montrer, nous la manifester, de grâce. Et Pierre Fabre revient fréquemment à tout ça. Et il note à certains jours que ses progrès se font en ce sens. Il remarque qu'il est rappelé de la distractio dont il parlait tout à l'heure. Cette distraction, il la quitte pour aller au recueillement. Par un attrait qu'il dit venu du dedans de lui-même, une intractio, un intractus, quasi tractus intro, dit-il. Écoutez bien ça. Je vais vous l'expliquer en français. Et par son texte, il y est question de distraction dans la prière. C'est très intéressant. Je demandais au Seigneur cette grâce, dont je commence à sentir qu'elle m'est partiellement accordée. Que mon âme soit rappelée à elle-même, à partir de son fond intime, si elle vient à s'écarter de sa paix, et que cette rétraction parte du dedans et du cœur. Vous savez, quand on veut prier, on est donc distrait facilement. On assiste à la messe, et tout à coup, on se rend compte qu'on est rendu à la consécration, puis on n'a pas prié. Ou on est rendu à la communion, puis on a pensé à autre chose. Que c'est donc difficile. Oh, ça m'arrive, moi, bien souvent. C'est pour ça qu'il faut peut-être murmurer entre ses lèvres, sans déranger les voisins, les paroles mêmes que le prêtre prononce parce qu'on les sait par cœur, et ça nous centre davantage sur le sens de ce qui se déroule. Il faut, dit le bienheureux Pierre Fabre, il faut que peu à peu, toute notre vie sensible et rationnelle soit ramenée à notre cœur, pour qu'enfin, rassemblés, unifiés à l'intérieur, nous passions ensuite à la vie indivisible et spirituelle qui est cachée en Dieu avec le Christ. Il s'inspire de l'Épître aux Colossiens. Notre Seigneur veut entrer en nous, dit-il, et nous amener à la conversion du cœur, afin qu'à sa suite nous entrions chaque jour davantage au plus profond et à l'intime de nos âmes. C'est tout écrit en latin, ça. C'est très beau. Gredia amor ad profundum viscerum nostrorum. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Au jour où l'on célèbre, dit-il, la conception de la très aimante Vierge Marie, c'est le 8 décembre, je ressentis une solidité et une stabilité toutes nouvelles dans mon cœur et à l'intime de moi-même. Je constatais que je me laissais moins envahir par les flots des tentations venues du dehors. Le fondement même de mon être se trouvait, par une grâce de Dieu et je ne sais de quelle manière nouvelle, consolidé et stabilisé. Alors, ce retour au cœur, c'est en même temps, on peut dire, une élévation. Il écrit d'ailleurs le mardi après la fête de la Très Sainte Trinité, « Je sentis une grâce que jamais je n'avais éprouvée avec tant d'évidence. » Vous direz, cessez de nous parler des grâces des saints, cessez de nous parler de leurs affaires, moi, il m'arrive jamais rien. Peut-être que si on les demandait, on éprouverait la même chose. Je suis sûr qu'il y a parmi l'auditoire des gens qui l'ont demandé et qui l'ont obtenu. Je sentis une grâce que jamais je n'avais éprouvée avec tant d'évidence, écrit-il, avec une vigueur et une stabilité inhabituelles. L'intelligence de mon âme s'élevait jusqu'à la face de Dieu qui est dans les cieux. Ce fut une élévation de la pointe de l'âme, où il m'était donné de saisir la présence de Dieu telle qu'il demeure dans son temple céleste, Il m'a semblé que jusque-là, je n'avais jamais encore exercé la partie la plus haute de mon âme. Je veux dire, la pointe de l'âme, à cette tension vers le haut. Alors le bienheureux Pierre Favre, évidemment, a pu être aidé pour ce progrès vers l'intériorité par ses relations avec les Chartreux. Et enfin, il a connu, non loin de l'endroit où il est né, le petit hameau, la Chartreuse du Reposoir. Quel beau nom, hein? La Chartreuse du Reposoir, dont ma mère Favre, son oncle, et dont Claude Périssin, son cousin Germain, par sa mère, ont été prieurs. Il appartient à une belle famille, hein? Un oncle et un cousin Germain, prieurs de Chartreuse. Eh bien, à Paris, les compagnons de Jésus, les jésuites, allaient le dimanche se recueillir et prier à la Chartreuse de Vauvert. Et en Allemagne, le bienheureux Pierre Favre fréquente la Chartreuse de Mayence, puis celle de Cologne, dont son ami, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Kalkbrenner, le prieur, déjà cité là, était un homme remarquable. Par les Chartreux, donc, il a pu connaître des spirituels, auxquels il s'intéressait alors beaucoup. Hugues de Balma, Denis le Chartreux, le fameux Lansperge, dont je vous ai déjà parlé, et lu un beau texte sur Jésus-Christ, une lettre à Jésus-Christ, c'est tellement beau, une lettre de Jésus-Christ plutôt. Puis les mystiques rhénans, bon, je vous en ai parlé aussi de ces gens-là. Eh bien, vous voulez peut-être avoir contact avec ce que c'est que des Chartreux, bien allez à Tchercé. Il y a plus de 20 femmes qui vivent comme des Chartreuses. Priez avec elles. Laissez-vous pénétrer par leur sourire et leur foi profonde. C'est pas loin de Tchercé, pas loin de Montréal. Ça se fait bien. Si pour le bienheureux Pierre Favre, il faut vivre selon l'esprit, il ressent aussi, puis c'est là un trait important de la spiritualité de ce premier jésuite, il ressent quelque chose de très important. C'est un appel très fort au travail apostolique. Plus l'Esprit de Dieu touche le fond de son cœur, plus il se meut au travail, comme on dit. À un travail dont on a vu combien il a été intense et constant quand je vous ai parlé de tous ces voyages tout à l'heure. Oraison, donc, et action. Elles s'aident mutuellement, hein? L'oraison, c'est la prière silencieuse, pousse à l'action. Pas une action qui se perd en rien du tout. Des réunions, la réunionnite est une maladie dangereuse. Non, l'action, faire quelque chose. Et l'oraison féconde cette action. Puis l'action stimule la prière. Puis ça attire les dons intérieurs de Dieu, tout ça. Il écrit d'ailleurs, on pourrait dire que celui qui possède le Christ dans la pratique des bonnes œuvres et celui qui le possède dans la prière sont comme celui qui le possède en effet, il dit in effectu, et celui qui le possède par l'affection, in affectu. Il fait une espèce de jeu de mots. Mais le posséder en effet, et par l'affection, l'amour, la tendresse pour Jésus-Christ, pour Dieu. Une nuit de Noël, d'ailleurs, une nuit de Noël, on s'en vient là, à la nuit de Noël. Comment allons-nous la vivre, cette nuit de Noël? Comment allons-nous vivre ce Noël? Espérons que ce sera dans la prière comme lui. Une nuit de Noël, le bienheureux Pierre Favre est poussé à naître, dit-il, aux œuvres, naître à l'action. Et il dit, daigne le Dieu Tout-Puissant. On peut prier avec lui, hein? Daigne le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, m'accorder de rechercher également ces deux grâces, en être aimé et les aimer. Mais je m'attacherai désormais davantage à ce qui est meilleur et plus magnanime, à ce que j'ai moins fait jusqu'ici, à vouloir aimer plutôt qu'à vouloir être aimé. Je chercherai désormais à leur donner des signes de mon amour plutôt qu'à d'attendre des signes du leur. Ce seront des travaux entrepris pour le Christ et pour le prochain, selon le mot du Christ à Pierre, « M'aimes-tu plus que Pierre? Alors paie mes brebis. » De même, en contemplant les plaies du Christ en croix, et nous pouvons les contempler sur le Saint-Suaire de Turin, qui, je vous le répète, est authentique, il n'y a aucun doute. Il y avait hier à la télévision une émission fantastique sur l'authenticité du linceul à The Learning Channel. Bouleversante émission. J'ai regardé ça à 1h de la nuit en priant. Que c'était beau ce matin. C'est bien l'amour du Christ qui nourrit dans la prière, se prolonge dans l'action. Il écrit au moment où j'allais dire la messe. Il me vint à l'esprit une véritable admiration pour la bonté de Jésus-Christ. Lui qui a poussé la libéralité jusqu'à se communiquer tout entier. C'est ça qu'il fait par sa naissance. Par sa libéralité jusqu'à se communiquer tout entier. Et à tous les hommes, aux bons qui lui en savent gré, mais aussi aux mauvais. C'était pour moi une leçon. Si le Christ se communiquait à moi chaque jour lorsque je célébrais, moi aussi je devais me communiquer et m'abandonner à lui de toutes les façons. Et pas seulement à lui, mais pour lui, à tous, bons et mauvais, bons et mauvais. Je répète, bons et mauvais. En conversant, en prêchant et en faisant du bien, en travaillant et en peinant pour eux, en m'ouvrant tout entier à eux. Oui, en m'ouvrant tout entier à eux. Il y a une dame qui est venue me rendre visite ce matin avant l'émission et qui me dit qu'elle prépare quelque chose pour que dans quelques jours, elle puisse aller dans le métro. Elle a la permission pendant 4 heures de prêcher dans le métro avec des amis et de distribuer des choses sur l'église pour faire connaître le catholicisme, l'église catholique. Pourquoi pas? Que c'est merveilleux. S'ouvrir, oui. Non, il faut souligner ce mot-là. Ce mot très aimé de Favre, il y revient souvent. L'Esprit Saint ouvre son cœur aux besoins et aux détresses des hommes. Il écrit d'ailleurs le jour de Saint Évariste, pape et martyr, c'est le 26 octobre, ça, Saint Évariste. Je m'étais levé vers 3 heures du matin et je trouvais beaucoup de dévotion, selon la bonne intention et les profonds désirs qui m'étaient inspirés, à prier pour les besoins des autres, en évoquant successivement les chrétiens, les juifs, les turcs et les païens, les hérétiques. Ce sont les protestants de l'époque qu'on appelait comme ça à l'époque. Hein? Et aussi les morts. J'avais à l'esprit toutes les misères des hommes, leurs faiblesses, leurs péchés, leurs endurcissements, leurs désespoirs et leurs larmes. Alors, c'est aussi l'Esprit Saint qui fait que les travaux s'ouvrent, hein? Comme il dit, que les cœurs s'ouvrent. Et pour cela, bien, il ouvre aussi le Saint-Esprit. Il ouvre le cœur du Père Favre à la confiance. En disant le fils de Saint-Étienne, pape et martyr, c'est le 2 août, ça, il dit, je lui disais, avec les mots qui m'étaient donnés, « Père bienheureux et très saint dans la vérité, faites que par vos prières s'ouvre l'affaire dont je dois m'occuper. » C'est comme si j'avais dit, « Il ne suffit pas que je sois moi-même ouvert et préparé aux tâches de la moisson de Jésus-Christ. Il faut encore que ces tâches elles-mêmes me soient ouvertes. » Alors, aux heures de découragement, la lumière divine découvre les possibilités cachées. Et le Père Favre sent qu'il est trop enclin à voir la tiédeur, puis la froideur, puis la malice ou la défection des hommes qui l'entourent. Et il dit, j'en viens à oublier maintes fois tout ce que Dieu a semé en eux de vertu et de bien. On l'oublie ça. Hein? Si l'on regardait, dit-il, ces biens d'un œil simple et non d'un œil mauvais, on trouverait une paix plus grande. Et si l'on partait de ce qu'on a découvert pour le développer chez les autres, là, on aurait des fruits plus abondants. C'est comme ça qu'il faut procéder. Hein? Et on a là encore une des caractéristiques du Père Favre, de très grands désirs. Tant pour le progrès personnel que pour l'apostolat. Puis dans l'exécution, l'humilité courageuse des petits commencements puis des lentes croissances. Et il écrit, « Demande la grâce pour les très petites choses et tu la trouveras aussi pour les accomplir, croire et espérer de très grandes. Élargis-toi, oui, élargis-toi et dépense-toi tout entier avec ce dont tu es capable, avec une petite grâce de Dieu. Et le Seigneur, oui, le Seigneur te donnera une grande grâce qui te rendra capable même de ce qui te dépasse. Oh, nombreux sont ceux qui rêvent à des choses presque impossibles et qui ne se soucient pas de l'ouvrage de leurs mains. » Alors le bienheureux Père Pierre Favre, premier compagnon de saint Ignace de Loyola, au XVIe siècle, a été profondément marqué par l'empreinte religieuse qu'il avait reçue dans ses premières années. On est tous marqués par ce qu'on a reçu dans notre enfance. Et lui, il gardait la piété sainte de sa province natale, la Savoie. Avec toutes les manifestations sensées, je me souviens des processions, moi, dans mon enfance. Comme on aimait ça, ces grands étendards, tout brodés d'or, avec des saints, des vierges. C'était beau, ces grandes processions. Comme on aimait ça, mon Dieu. Puis il aimait ses dévotions à la Vierge, aux anges, aux saints. Aux reliques même. Oui, pourquoi pas. J'en ai une devant moi. Elle est là. Sainte Marguerite Bourgeois, je l'embrasse. Sainte Marguerite Bourgeois. Eh oui. C'est une partie de son corps qui a servi de tabernacle à la Trinité. Son corps qui a évangélisé ici, rue Sherbrooke, devant le grand séminaire. Dans cette tour qui est là, là, est toujours là. On peut vénérer cette tour dans un sens. C'est tellement touchant et merveilleux. Et alors, il est encouragé par les avis des exercices spirituels sur la façon de sentir avec l'Église. Sentire cum ecclesia. Sentir avec l'Église, sentir avec l'Église. Faut pas sentir contre l'Église. Par tempérament aussi, il aime détailler, passer en revue des visages. Il aime ça énumérer les biens qu'il souhaite pour lui puis pour les autres. Des biens spirituels. Mais même des biens matériels, pourquoi pas. Il aime, à partir d'une intention particulière, étendre son action de grâce, fréquente, ou ses demandes aussi, à d'autres personnes, d'autres lieux, à des nations, à l'Église, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il aime à la fois la précision puis les images, là, avec des larges vues. Tout cela avec une grande liberté. Voici deux exemples. Un jour, à mon installation, dit-il, dans la maison que j'avais louée, je sentis divers mouvements de l'âme et de l'esprit accompagner le désir de faire une heureuse entrée dans cette demeure. Alors, dans chaque pièce et dans chaque salle de la maison, je dis à genoux cette prière. Ça me rappelle la première fois que je suis entré là où est Radio Ville-Marie aujourd'hui, j'avais apporté des médailles miraculeuses. Et j'en ai mis derrière tous les cadres de porte, partout. Oh, j'ai dû en mettre 30. J'espère que Marie veille sur Radio Ville-Marie. Alors, il dit, je dis à genoux cette prière, visite cette demeure. J'invoquais ensuite les anges gardiens des voisins. Oui, invoquer les anges gardiens des voisins. J'avais jamais pensé à ça, moi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je priais pour mes compagnons de logis et moi. J'invoquais ensuite Sainte-Odile et Sainte-Lucie, à qui est dédiée la chapelle voisine. Voyez comme il a une prière simple, ce grand mystique. Hein? Je demandais ardemment, en faveur de mon hôte et de tous les voisins, que l'air de tout le quartier leur fût bienfaisant. Il me fut donné de récapituler avec action de grâce, les diverses demeures où j'ai passé au long d'une vie assez vagabonde et instable. Je priais alors pour tous ceux qui ont eu ou qui auront l'occasion de passer ou de demeurer dans l'un des lieux où j'ai pu m'arrêter moi-même, ou être reçu pour y faire halte, pour y loger et y séjourner. Ça lui fait une prière très concrète. C'est assez extraordinaire. Le jour de Sainte Élisabeth, reine de Hongrie, le 17 novembre, ça. Je ressentis beaucoup de dévotion à voir se présenter à moi 8 personnes dont je désirais vraiment garder le souvenir afin de prier pour elles sans considérer leurs défauts. C'était le souverain pontife, l'empereur, le roi de France, le roi d'Angleterre, Luther, oui, le grand turc, Martin Bucer, un autre protestant, et Philippe Mélenchon, un autre grand protestant compagnon de Luther. Cela fut occasionné parce que j'éprouvais intérieurement, en constatant la façon dont souvent on jugeait ces hommes, il m'en venait une sorte de compassion accompagnée de bon esprit. Il y avait déjà l'esprit écuménique se penche avec compassion sur ses frères séparés. Mais une dévotion essentielle de Favre est celle qu'il porte au mystère du Christ. Il ne cesse de les contempler comme les exercices le lui ont appris, les exercices spirituels. De même que Ludolphe le Chartreux, les textes de Ludolphe le Chartreux. Il faut que je vous parle de lui un jour. Et sans doute Sainte Gertrude puis Sainte Brigitte. Hein. C'est Dieu qu'il cherche à travers l'humanité du Christ. Hein.
C'est ce qu'on doit faire
à la fête de Noël. On apprend par cette contemplation, dit-il, comment louer, aimer, servir Dieu, comment le voir, l'entendre, le sentir, le goûter, le toucher, tout cela par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est magnifique, ce sont des sentiments profonds que le bienheureux Père Favre éprouve, les sentiments profonds du Christ, dont il veut se pénétrer au point, dit-il, de n'avoir pas d'autre joie ou d'autre tristesse que celle qui se conforme, qui se rattache, ou qui conduisent aux joies et aux tristesses du Christ et de sa mère. Alors il éprouve un attrait particulier pour les mystères du Christ enfant et de Marie, et du Christ en croix aussi, et la Trinité, et l'Esprit Saint. Faudrait que je vous en parle une autre chose. Ah, c'est tellement beau, tellement beau. L'homme qui est entré dans l'amour de Dieu, dit-il, pour entrer et sortir, trouver des pâturages à l'intérieur et à l'extérieur, entrer dans le cœur à cœur avec Dieu, il peut croître sans cesse dans cet amour, découvrant chaque jour davantage le mystère de Dieu, et descendre aussi avec plus d'assurance vers ses frères pour les voir, pour les écouter. C'est une très grande grâce, je le sentis, dit le bienheureux Pierre Favre, que d'avoir la faveur de celui, l'Esprit Saint, qui est pour tous les êtres si puissamment et si intimement le principe, le milieu et la fin. Que c'est beau, l'Église, que c'est beau, les saints, que c'est grandiose, grandiose, grandiose. Oh, mon Dieu, que j'aime ce Pierre Favre, que j'aime ce que les Jésuites nous ont enseigné dans notre enfance, que je prie pour eux, les descendants de Pierre Favre et de Saint Ignace, pour qu'ils aient des vocations solides aujourd'hui, et qu'ils ressuscitent chez nous leurs œuvres et leurs prédications, leur présence à l'exemple du bienheureux Pierre Favre.